Parmi les trois textes qui sont proposés aujourd'hui à la lecture des églises, il y a deux versets de l'épître aux Romains au chapitre 8. Mais je vous invite à lire un peu plus que ces deux versets et de lire seulement, donc nous lirons un seul texte dans l'épître aux Romains au chapitre 8, les versets 18 à 30, et vous avez le texte sur la feuille qui vous a été donnée de l'autre côté de la confession de foi. Il y a ce texte qui est un peu dense, un peu long, donc voilà, vous l'aurez sous les yeux pour mieux suivre. Mais je vais commencer par le lire. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la vanité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption finale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Chaque jour, nous pouvons constater autour de nous, en regardant autour de nous, et nous pouvons aussi éprouver dans nos propres existences ce qui constitue la réalité présente du monde. Un mélange de bonheur et de malheur, de satisfaction et de souffrance, d'indifférence et d'engagement, de crise et d'apaisement, de conflit et de statu quo. En cela, notre situation n'est pas différente de celle de Paul. Paul écrivait à des chrétiens romains persécutés. Et même si le monde a considérablement changé depuis le premier siècle, ceci demeure, c'est que le monde dans lequel vit l'humain, Paul à son époque et nous aujourd'hui, le monde est tissé de conflits, de peines et de soucis quotidiens. Il n'y a pas que cela, mais cela ne peut être ni évité ni ignoré. Et donc chaque jour, nous pouvons entendre ou nous pouvons exprimer ces gémissements dont l'apôtre Paul écrit qu'ils sont ceux de la création tout entière dans les souffrances du temps présent. Et pourtant, dans la même phrase, Paul affirme que l'avenir est celui d'une gloire certaine. La gloire de la création devenue royaume de Dieu. La gloire des créatures, des humains devenus tous enfants de Dieu. Cette gloire, c'est aussi celle de la gloire du Christ, écrit Paul. Alors, pour nous, comme pour les chrétiens du temps de Paul, la question se pose, quelle est la relation entre ce présent difficile, éprouvant, douloureux, et cet avenir de gloire? Paul répond en trois temps. Cela explique au moins les trois premiers paragraphes dans le découpage du texte que vous avez sur les feuilles. Dans un premier temps, Paul explique quel est le fondement des crises, des malheurs, des souffrances qui provoquent ces gémissements. Il est important, il est même indispensable, de pointer ce qui cause les déchirements, ce qui provoque les gémissements, ce qui les provoque, c'est-à-dire plus profondément que les circonstances particulières de chaque groupe ou de chaque époque, comme par exemple les chrétiens romains qui avaient à subir des persécutions. Il importe, il est indispensable de pointer ce qui provoque les gémissements plus profondément que les oppressions ou les exactions qui écrasent tant d'êtres humains, qui les jettent sur des routes de l'exil ou dans les impasses du désespoir. Il importe de les reconnaître plus profondément que cette quête de profit et les engrenages déshumanisants que cette quête met en place. Il faut reconnaître, désigner et nommer pour ne pas se laisser abuser, se laisser entraîner, dominer et perdre. Paul utilise dans ce texte un seul mot pour cela. Un seul mot pour désigner la racine des souffrances. Et c'est le mot « vanité ». La vanité, c'est de s'appuyer sur rien, sur ce qui ne tient pas, sur ce qui est illusoire. Mais évidemment, si on s'appuie dessus, c'est qu'on croit que ça va tenir. C'est qu'on croit que c'est solide. Mais ça ne l'est pas. Le sage Qohélète, dans l'Ancien Testament, parle très bien de cette vanité qui rassemble l'orgueil, l'illusion d'être important, la volonté de laisser des traces, l'égocentrisme, mais aussi toute forme d'idolâtrie. Et le périssable, Paul emploie aussi ce mot, verset 21, il parle de l'esclavage du périssable. Le périssable, c'est un avatar de la vanité. Le périssable, c'est un pouvoir, un esclavage, un pouvoir suffisant, esclavagiste, et qui passe par la peur ou le refus des limites et de la mort. Le pouvoir du périssable, il s'appuie sur la peur et le refus, cette peur et ce refus qui empêchent de vivre beaucoup plus sûrement que les limites de nos existences ou la mort elle-même. Et cette peur de nos limites, elle rejoint, elle est fille de cette vanité de se croire important, de croire que nous allons pouvoir assurer en nous-mêmes ou par nous-mêmes notre existence, notre présent et même notre avenir. Mais la foi de Paul, c'est que ni la vanité, ni le périssable, tout puissant soit-il l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre n'auront le dernier mot. Car Paul nous invite à regarder la création dans la perspective de la volonté de Dieu, avec le regard de Dieu. Et alors l'avenir est clair. Il est celui de la gloire du Christ qui est promise à la création. Ce royaume, cet accomplissement, cette présence souveraine, bienveillante, bienfaisante de Dieu en tous, pour tous et en tout. Et c'est ainsi que l'espérance est possible. L'espérance donnée comme capacité de voir au-delà de la réalité ce vers quoi la création est véritablement orientée. C'est l'espérance d'une libération, écrit Paul, une libération qui redressera ce qui est encore aujourd'hui courbé et tordu sous le joug de la vanité. Parce que c'est fou comme ce qui n'est rien peut peser lourdement. Mais face à ce vide pesant, se tient la gloire. Et la gloire, c'est une densité de présence, une densité d'être qui n'écrase pas, mais au contraire qui tient bon et à laquelle on peut se tenir fermement. Elle ne cédera pas. Ainsi, grosse d'un avenir de gloire, la création, écrit Paul, est dans le temps de l'accouchement. Le temps du travail difficile avant la libération. La limite de l'image de l'accouchement, c'est que la libération, l'avenir glorieux, la libération ne viendra pas avec les propres efforts de la création des créatures. Cette libération, elle ne surviendra pas par un processus interne à la création, mais elle est l'œuvre de Dieu, elle est l'œuvre de Dieu en Christ. Mais que ce temps, que notre temps, soit celui de l'accouchement, c'est-à-dire d'un travail en vue d'un monde nouveau, nous pouvons déjà le voir, le constater. De la même manière que Paul, il y a 20 siècles, pouvait également le constater. Nous pouvons le voir à bien des signes. Tous les efforts de paix, de justice, tous les efforts de solidarité, de respect de la création, tous ces efforts qui sont mis en œuvre et qui témoignent d'une volonté, d'une détermination, d'une action en faveur de la vie des vivants. Tous ces signes, et il y en a dans ce monde en souffrance, tous ces signes, il importe que nous, les chrétiens, nous les soulignions, nous les mettions en valeur. Il importe que nous les encouragions, d'où qu'ils viennent. Mais il importe aussi que nous en initions, en témoin de ce monde nouveau qui vient, ce monde nouveau dont la forme et les couleurs ont été manifestées par Jésus de Nazareth. C'est ainsi que dans le deuxième temps, Paul parle des chrétiens, qui sont aussi confrontés à la vanité et à la souffrance. Paul parle de nous, qui gémissons, qui soupirons aussi. Mais nous avons en nous, donnés par Dieu et reçus dans la foi, nous avons en nous les prémices de l'Esprit. Pas encore l'Esprit dans sa totalité, mais nous avons déjà en nous, reçus dans la foi, donnés par Dieu, un petit peu de ce qui doit être et de ce qui sera en plénitude. Le monde nouveau a déjà commencé, aussi en nous. Les petites pousses, les bourgeons de l'accomplissement sont déjà en nous. Comme lorsque nous regardons en hiver la terre brune et les branches nues, nous voyons aussi par avance les champs verts et fleuris, et les feuilles, et les fruits. L'espérance nous permet de voir au-delà ce qui n'est pas encore, mais qui est pourtant en germe, qui éclot discrètement. Jésus-Christ, le Christ vivant, la résurrection ont été semés dans le champ du monde. Et déjà, il y a des éclosions. Alors nous pouvons vivre en espérance et nous conduire en fonction de ce qui sera, parce que ce qui sera a déjà commencé. Nous pouvons vivre, nous avons reçu de quoi vivre ainsi, en espérance, plutôt que de vivre simplement en constatant la vanité à l'œuvre dans le monde, ou voire même en en profitant. C'est l'espérance qui permet qu'il y ait en nous une ouverture, une disposition à autre chose qu'à la vanité ou à la peur, une ouverture pour les autres, une disposition pour que nous-mêmes soyons changés, transformés au fil des jours. Une disposition pour ajuster nos comportements à ce que nous croyons et à ce que nous espérons. Mais Paul ne veut pas raconter d'histoires toutes roses, et il ne faut pas que nous nous abusions nous-mêmes non plus. Ce n'est pas facile d'espérer dans le chaos du monde, au milieu des assauts de la souffrance, au milieu de la puissance de la vanité. Ce n'est pas facile de continuer à espérer quand on regarde la télévision, quand on lit les journaux, quand on regarde parfois même autour de nous, dans nos familles et dans nos villes, quand nous affrontons ce qui nous arrive. Cela requiert du courage. Cela implique de protester encore et encore contre cette vanité, contre la peur du périssable, contre la souffrance. Espérer exige de la persévérance. Le mot est écrit par Paul. C'est-à-dire une décision raisonnée, délibérée, entretenue, durable, et nous avons besoin les uns des autres pour entretenir notre espérance. Alors, dans le troisième temps, troisième paragraphe du texte, Paul insiste. L'Esprit, nous en avons des prémices, ce n'est pas tout, mais ces prémices, ils sont vraiment là. Et l'Esprit est vraiment entre nous et en nous. Et dans ce temps de souffrance, Paul dit qu'il prie pour nous. Il ne dit pas que l'Esprit inspire nos prières, mais qu'il prie pour nous. C'est une manière de reconnaître que oui, face à la puissance de la vanité, face à la peur du périssable, c'est-à-dire la peur de mourir, la peur de vivre, face à la souffrance et en proie à elle, nous pouvons déjà nous plaindre à Dieu, parfois seulement balbutier, ça suffit. Ça suffit que ton règne vienne maintenant. C'est une manière de reconnaître que oui, face aux horreurs dont nous sommes témoins ou qui nous sont rapportées chaque jour, nous sommes souvent désemparés et nous manquons même de mots. Et nous gémissons et nous crions et parfois même à bout de souffle, nous ne pouvons que faire silence. Alors, l'Esprit prie pour nous. Nous ne sommes pas abandonnés. Et lorsque les mots reviennent, qu'il nous soit donné de prier pour être des témoins, des signes avant-coureurs du royaume qui vient. C'est par l'Esprit que nous pouvons discerner ce que nous pouvons mettre en œuvre dans nos familles, là où nous vivons, dans nos villes, dans nos pays, ce que nous pouvons mettre en œuvre pour que tout ne reste pas en l'état. C'est par l'Esprit que nous pouvons imaginer et oser ce qu'il est possible de faire pour favoriser, pour accompagner, pour consoler, pour restaurer la vie des vivants qui nous entourent, qui sont à côté de nous. C'est par l'esprit que nous pouvons nous engager dans la création, en agissant de manière solidaire, généreuse et respectueuse. Car tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Au dernier paragraphe. Il faut être très clair. Aimer Dieu, ce n'est pas une garantie de vie sans souci, sans souffrance. Parce qu'aimer Dieu, c'est souffrir, c'est affronter, accueillir ce qui vient, et c'est souffrir en compassion de la souffrance d'autrui. Mais aimer Dieu, c'est aussi aller vers ce qui est bon et aimer autrui. Et c'est cela, tenu ensemble, d'assumer cette souffrance et de s'engager vers le bon et dans l'amour. C'est cela, tenu ensemble, qui est le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est cela qui les rend vivants et présents au monde et parmi leurs frères et sœurs, de pouvoir au cœur de la misère être témoin d'amour et de vie. Et celui ou celle qui porte en lui cette aspiration à aimer Dieu, c'est bien que lui ou elle a été appelé, et donc, dit Paul, destiné d'avance, prédestiné. Oh là là, le gros mot. La prédestination ne joue jamais une catégorie de personnes contre une autre. La prédestination, ça ne sert pas à séparer les croyants des incroyants, les bons des méchants, les justes des injustes. La prédestination n'est jamais affaire de comparaison entre les personnes. La prédestination n'a de signification que pour celui qui est appelé et qui a entendu l'appel et qui y a répondu et qui a conscience alors d'être prédestiné, destiné à être, devenir conforme à l'image du Christ, prédestiné à devenir en communion avec le Christ. Et cela ne se fait jamais au détriment d'autrui. La prédestination, ça n'a à voir qu'avec le salut, seulement avec le salut. La prédestination, c'est toujours pour le salut. Ça n'est jamais ni pour la perdition, ni pour l'enfer, ni pour le diable, ni pour rien de tout ça. Être prédestiné, c'est pour être, pour devenir conforme à l'image du Christ. Et la prédestination nous conduit sur le chemin que le Christ a ouvert, en vivant d'autre chose que de nous-mêmes, en vivant en étant justifiés, en cessant de subir le poids et les injonctions de la vanité, en discernant les lieux de souffrance où poser des paroles, des gestes, des présences de compassion et de bonté, en espérant fermement et en restant cohérent avec cette espérance qui nous engage à être actifs dans le monde et vivre ainsi, c'est déjà luire un peu de la gloire promise. C'est déjà la gloire de Dieu sur la terre. Amen.